Alors, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous, que la paix soit sur chacun d'entre vous. Et donc, ce matin, on va continuer sur le livre des Actes des Apôtres. Et nous sommes arrivés au chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4. Si vous avez vos Bibles. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. En les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils s'élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta puissance, Seigneur. Seigneur, nous remettons aussi, encore une fois, ce moment entre tes mains, Seigneur. Seigneur, que toi, tu puisses nous parler, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner nos péchés, Seigneur. Afin que ton sang qui a coulé à la croix soit sur ce lieu, afin que ton Saint-Esprit s'établisse et se manifeste avec puissance, Seigneur. Seigneur, que personne ne reparte comme il est venu, Seigneur. Permets-nous de recevoir de ta part, Jésus. En ton nom, Jésus. Amen. Nous avons vu dans les chapitres précédents comment le Seigneur a mis à cœur à Luc de donner tout le récit de ce qui s'est passé pour les apôtres, pour ceux qui suivaient Jésus. Et c'est très surprenant de voir comment Luc s'adresse, parce que la lettre, à la base, était destinée à une personne qui s'appelle Théophile. Dans l'évangile de Luc, dans Luc 1, verset 3, Luc appelle Théophile excellent, excellent Théophile. Et dans Actes des Apôtres, il commence encore par mettre le nom de Théophile. Théophile qui avait une position particulière dans l'Église d'antan, aussi une position particulière par ses fonctions, mais Théophile en fait signifie qui est aimé de Dieu, qui est béni de Dieu. Le Seigneur a beaucoup insufflé la culture grecque, la culture juive, pardon, parce qu'en fait, même quand il donnait des noms aux enfants, il y avait une signification derrière. Et j'aime ce prénom de Théophile parce que ce matin, je peux dire que si nous lisons cette lettre, nous sommes tous appelés Théophile. Et la grâce, c'est que Théophile signifie aimé de Dieu. Et je rajoute le préfixe qu'avait utilisé Luc, excellent Théophile, lisant Actes des Apôtres. J'aime la parole de Dieu parce que il y a des fois des détails comme ça dans lesquels on peut lire un texte, mais si on lit à qui s'adresse ce texte, on voit combien Dieu nous aime. Combien Dieu t'aime. Parce que même quand il écrit, il t'appelle avec des mots d'amour. Mais voyez-vous, notre difficulté, c'est que est-ce qu'en retour, j'aime aussi Dieu? Est-ce que je prends plaisir à lire sa parole? Parce que Dieu te parle. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois d'origine française, d'origine africaine, d'origine américaine, Dieu te parle parce qu'il t'aime. Et c'est avec amour que nous devons lire sa parole. Les deux apôtres se retrouvent dans une situation particulière. Ils sont devant le Sanhédrin. Pourquoi sont-ils devant le Sanhédrin? Parce qu'ils ont fait un miracle. Quel miracle ont-ils fait? Ils ont guéri un paralytique. Tout de suite, on peut faire un comparatif avec la vie de Jésus. Jésus a aussi guéri des paralytiques. Et c'est une difficulté pour les Juifs de dire, mais comment fait-il pour guérir ces paralytiques? On a vu dans l'évangile de Jean 5, versets 1 à 16, Jésus se retrouve devant un homme qui est là depuis des années. Il est paralysé. En ce temps-là, dans la piscine de Bethsaïda, l'eau bougeait, et dès que l'eau bougeait, il fallait que celui qui est malade plonge dans l'eau pour être guéri. Donc vous vous dites bien que celui qui est paralytique, qui n'a personne qui peut le porter. Parce que dans Marc 12, les amis du paralytique l'ont porté et l'ont emmené à Jésus. Jésus l'a guéri. Mais dans Jean 5, on a quelqu'un qui n'a personne qui peut le porter. Il est allongé, il entend l'eau bouger. Quand il essaye d'aller vers l'eau, ben, il y a déjà quelqu'un qui est entré. Parce qu'ils étaient nombreux. La grâce que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament, c'est que les guérisons se faisaient autour de cette piscine au moment où Jésus était là. Mais voyez-vous, Jésus, qui est aussi appelé la source de la vie, c'est l'eau principale, se présente devant cet homme et il demande à cet homme qu'est-ce qu'il veut que Jésus lui fasse. Et bien sûr, il veut être guéri. Lorsqu'on voit Christ comme un homme, on ne peut pas s'imaginer la puissance qu'il a en lui. Mais voyez-vous, à l'instant même, celui qui était un homme prend la forme liquide pour guérir le paralytique. Parce que là, on n'a plus besoin d'aller dans l'eau pour être guéri, on a juste besoin d'être en contact avec Jésus. Il ne peut pas être un homme pour faire de telles choses. Maintenant, que dirons-nous des apôtres qui guérissent le paralytique à leur tour et qui se retrouvent à répondre à une situation? Et c'est Pierre qui prend la parole. L'Esprit Saint est descendu sur eux. Mais pourquoi l'Esprit Saint est descendu sur ces apôtres? C'est parce qu'ils ont cru en Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Ces apôtres, ayant reçu l'Esprit Saint qui s'est manifesté désormais, ils vont maintenant marcher sur les traces de Jésus. Je ne sais pas si lorsque vous étiez enfant, vous avez fait la même expérience. Moi, quand j'étais enfant, j'habitais pas loin de la plage et j'avais plaisir à marcher derrière les pas de quelqu'un. Je voyais les pas, quelqu'un avait marché, et moi, je repassais derrière, et ça m'intéressait de suivre les pas. Et voyez-vous, à ce moment-là, les disciples sont dans cette position. Ils suivent les pas de Jésus. Et ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire les mêmes choses que Jésus a eu à faire. Et la grâce, c'est que ça augmente leur foi. Ça augmente leur croyance. Parce que Jésus les avait déjà prévenus. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit viendra, c'est là où vous manifesterez la puissance. Et ça s'est passé comme il a dit. J'aime Jésus, c'est un Dieu de précision. Il n'y a pas d'à peu près, peut-être, éventuellement, cela pourra. Non, quand Jésus dit c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas un homme. Du coup, ils reçoivent cette puissance et ils vont manifester désormais. Et je rappelle que une des choses fondamentales face à la guérison, c'est de voir que c'est Dieu qui agit. Ne vous y trompez pas. C'est pas l'homme qui est en face de vous qui agit. C'est Dieu qui agit. Et c'est pour ça que Pierre insiste à bien expliquer aux Juifs, tout ça vient de Jésus, c'est pas nous. C'est pas nous. Ils le disent eux-mêmes dans le texte que nous venons de lire. Pierre et Jean sont des hommes sans instruction. Ce sont des gens qui étaient des pêcheurs de profession. Ils faisaient de la pêche pour vivre. Jésus les a appelés. Mais ils étaient aussi des pêcheurs, puisque éloignés de Dieu. Jésus les a transformés. Et tellement transformés que comme Jésus, ils vont se retrouver devant le Sanhédrin. Parce que vous n'avez pas oublié que Jésus aussi, après avoir guéri des paralytiques, après avoir fait des miracles, il s'est retrouvé devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le conseil des Juifs où il y a le grand prêtre, où il y a des scribes. Et là, dans ce que nous venons de lire, il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était une branche des Juifs qui ne croyaient pas en la résurrection. Eux, pour eux, la résurrection n'existait pas. Donc, il fallait qu'il soit là pour démontrer que ce que fait Pierre et Jean n'est pas de Dieu. mais le Seigneur agit avec puissance. Remarquez qu'ils sont deux. Pierre n'est pas allé tout seul, ou Jean n'est pas allé tout seul. Ils sont deux. Ils sont dans l'unité. Et quand vous lisez les textes bibliques, vous voyez la signification du fait que Jésus, quand il a commencé à enseigner à ses disciples, à manifester le ministère, il les envoyait deux par deux. Ces hommes, à chaque fois qu'ils agissaient, se souvenaient de ce que Jésus avait dit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, à chaque fois que tu agis, souviens-toi de ce que Jésus a dit. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. Le Sanhédrin, ça aussi c'est quelque chose de particulier. Les personnes qui étaient des Lévites, qui étaient consacrées à Dieu, pouvaient avoir le rôle de grand sacrificateur. Et Anne, par exemple, du temps de Jésus, était le grand sacrificateur. Mais ensuite, les Juifs vont les Romains vont le remplacer par Caïphe, qui est son beau-fils. Et au moment où cette scène se produit, Anne n'est plus grand sacrificateur. C'est Caïphe qui devient le grand sacrificateur. Et c'est vraiment une véritable surprise de voir comment les Juifs fonctionnent, parce qu'en fait, les nominations des grands sacrificateurs ne dépendaient pas de celui qui les colonisait, en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui leur montrait qui devait devenir grand sacrificateur. Mais maintenant, c'est les Romains qui imposaient le grand sacrificateur. Et bien sûr, vous voyez que celui qui est imposé n'a pas la capacité. Si ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce ministère, tu n'as pas la capacité. Tout doit venir de Dieu. Et Dieu n'est pas romain. Dieu n'est pas romain. C'est Dieu qui doit te mettre à cet endroit. Et c'est pour ça que Jésus, quand il prie, il dit « Je cherche la volonté du Père. Je suis venu accomplir non pas ma volonté, mais la volonté du Père. » Mes chers amis, notre tentation, c'est de nous éloigner de la volonté du Père. Une petite anecdote concernant les disciples. Lorsque nous ferons des études plus tard sur Genèse, on entrera peut-être dans le détail sur les différentes tribus d'Israël. Pierre et Jean étaient des Juifs, ils sortaient des tribus d'Israël. Et en fait, Pierre a été issu de deux tribus, en fait. Il venait de la, vous savez qu'il y a 12 tribus. Il venait de la tribu de Ruben et de Siméon. Et Jean aussi venait de deux tribus. Il venait de la tribu de Judas et de Lévi. Et on peut voir la particularité dans la façon dont ils agissent. L'arrière-plan que ces tribus peuvent avoir. Mais c'est une parenthèse pour vous dire en fait que dans les bénédictions des 12 tribus d'Israël, c'est Jésus-Christ qui nous les accorde. Et si vous avez la possibilité de peut-être de lire ce que signifie ces tribus-là, vous allez peut-être être surpris de vous retrouver dans certaines tribus par la façon dont vous agissez. C'est très surprenant de voir que même nous qui n'avons pas le sang juif, comme nous avons le lien par Jésus-Christ, on peut se retrouver facilement dans l'une des tribus. Et une des tribus, c'est la tribu de Judas, qui était la plus combattante. Et leur emblème, c'était le lion. Et la surprise, c'est de voir que même dans la nature, vous savez, lorsqu'un lionceau naît, il naît aveugle. C'est en grandissant, en fait, qu'il commence à voir. Ceux de la tribu de Judas, ils s'attaquaient à tout. Mais il fallait que Dieu leur ouvre les yeux pour qu'ils puissent grandir. Souvenez-vous de l'épisode de Jean avec Jésus. Lorsqu'ils sont entrés dans un village, ils ont proclamé l'évangile, personne n'a voulu entendre. Il a dit à Jésus, il faut qu'on brûle le village. Et Jésus lui a dit, comment tu veux brûler le village? Ça, c'est sa tribu. Ceux de Judas, ils sont comme ça. En Afrique, la tribu de mon père, il y a un homme qui m'avait expliqué que lui, quand il prend un couteau, pour le redéposer, il faut qu'il y ait du sang. Si le sang ne coule pas, il ne peut pas redéposer le couteau. Bon, en ce temps-là, j'avais pas cette connaissance. J'allais lui dire, tu es de la tribu de Judas. Il faut que tu te convertisses à Jésus parce que justement, cette façon de parler, ce sont ceux de Judas qui parlent comme ça. Ils sont devant le Sanhédrin et voyez-vous, on va faire un parallèle avec ce que Jésus a vécu lui-même aussi devant le Sanhédrin. Matthieu 26. À partir du verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rétablir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble-t-il? Ils répondirent, il mérite la mort. Caïphe, à ce moment-là, déchire ses vêtements. Chez les Juifs, ils déchiraient les vêtements quand il y avait un deuil. Aujourd'hui encore, il y en a qui le pratiquent. Mais aussi quand on parle du mal de Dieu. C'est une particularité. Peut-être un clin d'œil pour nous, le nombre de fois que nous avons assisté à des moqueries sur Dieu, est-ce qu'on a déchiré nos habits, mais j'espère plutôt que nous avons eu le cœur déchiré d'entendre ces choses. Et du coup, vous voyez comment quelqu'un comme Caïphe peut être un sacré manipulateur, parce qu'il n'a pas changé. C'est le même qui convoque Pierre et Jean. C'est le même qui leur pose des questions. Il dit que Jésus a blasphémé parce que Jésus a dit qu'il sera à la droite du Père. Si c'est pas de la mauvaise foi, ils connaissent les textes. Ils savent que David a dit « Mon Seigneur s'est assis à la droite de mon Seigneur ». Ils connaissent les textes par cœur. Mais c'est pour ça que Jésus dit que votre Père est le diable. Parce que aucun ne cite ces textes à ce moment-là. Ils préfèrent accuser Jésus. Mais la grâce, c'est de voir que même là, ils sont dans le plan de Dieu. Ils sont dans le plan de Dieu. Parce qu'il fallait que Jésus soit condamné. Il fallait que Jésus soit condamné pour que Pierre et Jean soient relâchés. Parce que s'il n'y avait pas eu l'œuvre à la croix, nous ne serons pas ici. Si Jésus n'était pas allé à la croix, aucun homme n'aurait pu être sauvé depuis Adam jusqu'à Apocalypse, jusqu'à la fin. Jésus, devant le Sanhédrin, parle avec assurance. Vous remarquez qu'à un certain moment, c'est même Caïphe lui-même qui dit « Es-tu le Messie? Es-tu le Fils de Dieu ?» Jésus lui répond, tu l'as dit, c'est toi qui le dis. Même si ma bouche ne veut pas l'ouvrir, même si je ne veux pas dire, même si je ne veux pas prononcer que Jésus est le Christ, le Messie, Dieu mettra dans mon cœur de le prononcer. Et que ce soit Caïphe, que ce soit Ponce Pilate, ils ont tous dit Jésus est le Messie. Et pourtant, ils l'ont fait condamner. Des personnages qui ne s'entendaient pas. pense Pilate et Caïphe ne s'entendaient pas du tout. Mais quand on arrive à l'histoire de Jésus, c'est curieux. Ils s'entendent. Ils s'entendent. Dieu est un Dieu de gloire parce que désormais, il va revêtir les apôtres d'une puissance, d'une véritable puissance, et ils vont faire des miracles. Dieu va les utiliser pour faire des miracles. Et remarquez que l'homme qui était à Bethsaïda avait attendu 38 ans, celui qui est là a attendu 40 ans. C'est une difficulté pour les Juifs parce qu'en fait, pendant 40 ans, si vous voyez comment le temple de Jérusalem est fait, les principaux sacrificateurs, les scribes, passaient devant cet homme pendant 40 ans. Ils ont vu cet homme pendant des années devant le temple. Ils ne l'ont pas guéri. Pendant des années, il passait, il revenait. Il passait, il revenait. Il ne se passait rien. Mais quand Jean et Pierre sont arrivés, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, même le peuple qui est là, ils vont croire. Les 5000 qui vont croire. Mais c'est parce qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire que les Juifs n'ont pas pu faire. Que les Juifs n'ont pas pu faire. Pendant toutes ces années, s'ils voulaient, il fallait qu'ils le guérissent. Dans Jean 6, Jésus donne à manger à 5000 hommes. Ici, dans Acte 4, 5000 hommes vont être touchés. Vous voyez comment les disciples marchent sur les mêmes pas que Jésus. Ils vont faire les mêmes choses que Jésus. Ce sont les mêmes chiffres qui vont revenir. Mais je veux dire aussi à quelqu'un, ce matin, ça fait peut-être plusieurs années que tu es malade. Ça fait peut-être plusieurs années que tu souffres de quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un moment de persécution. Parce que vous voyez, Pierre et Jean, en ce moment-là, étaient dans la persécution. Christ a dit qu'il est venu délivrer les captifs. Mets ta foi en Jésus. Ça fait peut-être un moment que tu attends quelque chose de Dieu. Mets ta foi en Jésus. Cet homme a attendu 40 ans de sa vie pour avoir la guérison. Dieu t'appelle à persévérer. Quelle est la foi de quelqu'un qui obtient tout de Dieu en un clic? Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Si la moindre chose que tu demandes à Dieu, il te la donne, quelle sera ta foi? Non, il faut que cette foi soit éprouvée. Et le chiffre 40 dans la Bible est le chiffre de l'épreuve, de la persécution. Le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Et bien sûr, le diable est descendu. À 39, il ne pouvait pas descendre. 40. Et peut-être que maintenant, dans ta vie, tu es en train de passer la période des 40. Difficile. Mais dis-toi bien que Dieu est avec toi. Dieu descend avec toi. Il est puissant. Il va faire. Il va faire. Aussi longtemps que ça prendra, Dieu fera pour toi. Ils ont été jetés en prison. Innocents. Pierre commence par dire, nous sommes reçus ici parce que nous avons fait le bien. Je ne sais pas si vous connaissez une juridiction qui arrête quelqu'un parce qu'il a fait du bien. Vous avez aidé une vieille dame à travers. Si vous êtes arrêté, voici les Juifs dans quelle situation ils se retrouvent. On a guéri un paralytique, on arrête ceux qui l'ont guéri. Vous vous rendez compte comment le diable peut aveugler quelqu'un? Aucun d'eux ne voit le bienfait qui a été fait. Et Dieu fait grâce parce que celui qui est guéri est là. Il est là comme témoin. On peut pas dire c'est pas vrai, il est là. Sinon peut-être faut l'empoisonner. Mais il est là, debout. Dieu fait le bien et l'homme veut passer pour celui qui fait le bien mieux que Dieu. Mes chers amis, bien-aimés, cette partie nous appelle à une extrême vigilance. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui, quelle est la différence entre ces Juifs et nous? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Aujourd'hui, peut-être vous lisez la Bible tous les jours, vous priez tous les jours. Mais êtes-vous aveuglé devant le bien et le mal? Entendez-vous la voix de Dieu? Dans Éphésiens 6, il nous est rappelé que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oh, le Seigneur est bon. Pourquoi? Parce que celui qui a accepté Jésus-Christ a vaincu la chair à la croix. Caïphe et ses amis n'avaient pas encore vaincu la chair. Et c'était quoi la chair en leur temps? Mais c'était qu'on dise que c'est Caïphe qui a guéri. Vous savez, quand le principal sacrificateur passait, c'est un peu comme aujourd'hui dans certaines églises. Le responsable de l'église passe, il y a des gens qui se mettent à genoux, il y a des femmes qui jettent des pagnes, tout le monde, on lui donne un grand fauteuil. C'est ça qui se passait en ce temps-là. C'est ça. La gloire était pour Caïphe. Donc Caïphe ne comprend pas comment deux vulgaires pécheurs sont maintenant acclamés par le peuple. C'est lui qui doit être à cette place-là. Mais ça, on est encore dans la chair. Parce que Dieu t'a fait grâce. Quelle que soit la place que tu as dans l'église, Dieu t'a fait grâce. Ne t'élève pas, parce que le diable t'attaquera là-dessus. J'ai écouté un homme qui avait un ministère important dans l'église, qui voulait tout le temps qu'on l'appelle frère. Il refusait qu'on utilise un autre nom. C'est en lisant l'évangile, c'est en voyant des expériences qu'on se rend compte que oui, attention, peut-être ton ego peut prendre sur toi. Lorsque tu parles de la bonne nouvelle, parce que là, ils annoncent la bonne nouvelle. Ils ont annoncé la bonne nouvelle au peuple juif. Maintenant, ils annoncent la bonne nouvelle au Sanhédrin. Le Sanhédrin ne veut pas entendre, mais ils annoncent la bonne nouvelle. Ils sont revêtus de puissance et ils ont l'assurance que Jésus-Christ est avec eux. Mais quand les gens se convertissent, quand il y a eu 5000, est-ce que vous lisez dans les textes que Pierre s'est réjoui en disant « Ah, c'est grâce à moi, hein, les 5000 sont là. C'est moi, Pierre. C'est moi qui ai parlé. » À aucun moment. À aucun moment. Sur leur bouche, il n'y a que Jésus-Christ. Qui évangélise? C'est Jésus. C'est Jésus. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Qui transforme des vies? Rendez-vous bien compte que changer un adulte, c'est extrêmement difficile. Pour ceux qui sont mariés, vous connaissez le mauvais exemple que nous faisons souvent. On veut transformer son conjoint à son image. On veut transformer. J'aimerais bien, ma femme doit faire ça, elle doit, à 5h, faut qu'elle fasse ça, à 10h, mon mari, faut qu'il fasse ça. Résultat, s'il y en a un qui a réussi à transformer, franchement, qu'il lève la main, qu'il me donne la méthode. Je n'en connais aucun qui a réussi. Aucun. Le seul qui transforme, c'est Dieu. C'est Dieu qui transforme. C'est Jésus qui transforme. Ne pas s'hasarder à vouloir changer quelqu'un. C'est Jésus qui transforme, personne d'autre. Mais le malin peut te faire croire que toi, tu peux transformer quelqu'un. Là, tu es dans la chair. Tu n'utilises pas les armes de l'esprit que Dieu nous a données. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et je rappelle ce matin l'utilisation de la Bible d'études. Il y a beaucoup de choses que je vous ai dit, ça vient de la Bible d'études. Ne vous dites pas, ah, le frère, en tout cas, des fois, oh là là, il apprend des choses, c'est extraordinaire. Non, c'est la Bible d'études. Non, tu prends ta Bible d'études, tu vas apprendre ce que je vous dis. C'est aussi simple que ça. Dieu nous a fait grâce. C'est ça le Saint-Esprit qui est descendu. Dieu nous a fait grâce de découvrir ces choses. Et ces choses sont cachées. Mais nous les découvrons. Par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait une véritable grâce. Ensuite, Pierre explique dans le verset 11 que la pierre qui a été rejetée, c'est celle-là qui devient
ce que Dieu utilise désormais principalement. Là encore, on est dans la mauvaise foi. Psaume 118, verset 22, c'est écrit. Ce que dit Pierre est écrit. Et tous ceux qui sont là dans le Sanhédrin savent que c'est écrit dans les psaumes. Mais aucun ne dit, tiens, il a cité les psaumes. Non, non, non. Non. Comme on veut tellement aboutir à quelque chose qui va enlever à ces deux personnes le fait d'avoir usé d'une puissance qui vient de Jésus-Christ, on est prêt à des compromis. Mais Jésus les avait déjà prévenus. Dans Matthieu 21, 42, Jésus leur avait encore expliqué pourquoi ils devaient être rejetés. Sur le moment, Pierre ne comprenait pas. Et vous suivez même que Pierre a été l'un de ceux qui a eu la réaction de dire non. Non, Jésus, il ne faut pas qu'on te prenne. Il ne faut pas que tu ailles à la croix. Sur le moment, il ne pouvait pas comprendre. Le lien avec la tribu de Judas. Sur le moment, il était aveugle. Il était aveugle. Comme il fallait que Paul devienne aveugle pour voir Jésus un jour. Mais ensuite, grâce à l'Esprit de Dieu, les yeux vont s'ouvrir. Et les yeux vont tellement s'ouvrir que désormais, ces gens vont avoir le zèle de l'Évangile. Juste un petit rappel. Le Sanhédrin pouvait condamner à mort des gens. Je rappelle juste que quand il parlait au principal sacrificateur et aux autres, la peine maximale qu'ils pouvaient recevoir, c'est la peine de mort. Aucun d'eux ne tremblait. Ils avaient le zèle de proclamer l'Évangile, Éphésiens 6. Ils étaient zélés de parler comme ça en sachant qu'ils risquaient leur vie. Ils risquaient leur vie. Mais au contraire, avec plaisir, ils ont expliqué et ils sont même allés jusqu'à dire au Sanhédrin à qui faut-il obéir. J'aime ça. À qui faut-il obéir? Un juif. Tu dis à qui tu dois obéir? Il ne peut pas dire n'obéis pas à Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Impossible que Caïphe ait pu dire non, n'obéissez pas à Dieu. Si Dieu t'a mis ça à cœur, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout parce que toutes ces choses ont été prophétisées. Vous pourrez lire Amos 3, verset 8. C'est prophétisé que ça devait se passer et ça s'est passé. Et quand Dieu prophétise quelqu'un, qui sommes-nous pour dire « je ne vais pas le faire » Ils sont menacés, mais ils sont relâchés. Ils sont menacés, mais ils sont relâchés. Il est possible que tu annonces l'Évangile, qu'on te menace. Il est possible que tu subisses des violences au nom de cet évangile. Mais dis-toi bien, à qui dois-tu obéir? À Dieu ou aux hommes? C'est à Dieu. Ensuite, dans une seconde partie, ils vont arriver vers les autres et ils vont se mettre dans la position favorite des croyants. Septième arme de l'esprit, la prière. La prière. Ah, ça, c'est la position du croyant. C'est vraiment, vous voyez, dès qu'ils arrivent, leur réflexe, ce n'est pas de dire, bon, qui a parlé? Il y avait qui? Il y avait Jean, il y avait Alexandre, il y avait Caïphe. Qui vous a accusé? Nous, on aime bien ça. Hein? Côté colportage et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, ça, c'est la chair. Mais la véritable position du croyant, c'est d'abord la prière. La prière, ils ont prié. Dès qu'ils se sont vus, ils ont commencé à prier pour remercier le Seigneur. Ils n'ont pas cherché à savoir les détails. Je vous rappelle que ça faisait plus de 24 heures qu'ils ne les avaient pas vus. Ça faisait à peu près 48 heures. Ils ne savaient pas dans quel état allaient être Pierre et Jean. Mais dès qu'ils se voient, ils prient. Et la puissance de Dieu se manifeste parce que lorsque vous relisez cette prière, vous relisez la prière de Jean 17, la prière de Jésus. Vous verrez qu'on retrouve les mêmes aspects que Jésus a mis, notamment les 5 points principaux de la prière, dans la prière qui vient d'être faite par ceux qui sont là. C'est vraiment les disciples de Jésus. Ils parlent comme Jésus, ils prient comme Jésus, comme le Maître. C'est-à-dire que dans leur prière, on va retrouver la louange, on va retrouver l'adoration, on va retrouver l'action de grâce, on va retrouver l'intercession et enfin on va retrouver la requête. Il y en a 5 mes chers amis. Souvent, en tant que croyants, nous sommes dans la requête. Seigneur, donne-moi tel travail, donne-moi tel appartement, donne-moi telle voiture, donne-moi... Ça, c'est la requête. C'est un élément. Il y a cinq. Il y a cinq. Il commence par dire, c'est toi qui as tout créé. C'est Dieu qui a tout créé. Il faut s'en rappeler. Hein. C'est Dieu qui a tout créé. Et même dans la prière, il le rappelle. Et on retrouve la prière de Jean 17, mais aussi on peut retrouver la prière de Romains 8, où il est dit que le Saint-Esprit lui-même prie pour nous, même dans nos imperfections. C'est-à-dire que tu fais une prière, le Saint-Esprit reprend la prière, il corrige, bic rouge. Il va corriger. Et il va envoyer au Seigneur. Et là, le Seigneur va dire, oui, bon, d'accord, bon, oui, on va faire. Non, mais sa prière ne peut pas arriver à Dieu. Il y a tellement d'incorrections, mes frères. Enfin, des fois, on peut s'enregistrer en priant, mais Dieu fait grâce, hein, vraiment. Non, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. C'est-à-dire, Dieu lui-même prie pour nous. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Et même après, Dieu continue à être en action. Parce que par nous-mêmes, le contact n'est pas possible. Nous sommes trop éloignés. Et c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui va agir pour nous. Un homme aussi a connu la persécution dans la Bible. Il s'appelle Daniel. Daniel a prié pendant 21 jours. Il a jeûné, il a prié. C'est le 21e jour qu'il s'est passé quelque chose. Avant, il ne se passait rien. Ça nous incite à persévérer dans la prière. Un jeune homme a été vendu par ses propres frères. Il s'appelle Joseph. Et je rappelle que Joseph, qui est le fils de Rachel, était celui qui venait avant Benjamin. Et lorsque Benjamin est né, Rachel est morte. Joseph n'avait plus sa mère, il n'avait que son père. Et très jeune, il a été vendu par ses frères, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Comment on peut être aussi jeune et souffrir autant? Il est devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Pour que Dieu t'élève, il faut pas que tu aies peur de la souffrance. Il faut pas que tu aies peur. Dieu l'a élevé au bout d'un moment, comme Dieu a élevé Daniel, parce que vous voyez, Daniel était un homme de prière. Daniel a même eu des prophéties du temps de la fin, c'est-à-dire que des prophéties sur la fin, sur ce que dit Apocalypse, sur la bataille d'Armageddon, sur la bataille de Gog et Magog. Toutes ces choses, Daniel les a vues. Mais entre Daniel et l'arrivée de Jésus, il se passe de nombreuses années. Mais pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. Mais bien aimé, nous avons la prière communautaire, mais il y a aussi la prière personnelle à la maison. C'est très important de lire la Bible. C'est très important de passer du temps dans la prière. Mais c'est aussi important de venir le jeudi à 19h15. C'est aussi important de venir le dimanche à 9h30 pour prier. Plusieurs églises, lorsqu'il y a une prédication, il y a des personnes qui ne sont pas là à écouter la prédication. Ils sont dans la salle d'à côté en train de prier pour que des âmes soient touchées. Parce que ce matin, il est possible que dans la salle, il y ait aussi des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vous invite à prier dans votre cœur pour eux. Parce que nous sommes au temps de la fin. Si Jésus revient, que seras-tu? Que seras-tu? Jésus t'appelle à venir à lui. Mais si tu lui résistes, que seras-tu? Il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté le baptême. C'est ça l'obéissance au Seigneur. C'est ça l'obéissance. Pierre et Jean ne pouvaient pas dire, ah non, nous on veut pas le baptême. Ou nous on veut pas le parler en langue. Mais Marc 16 le dit. Matthieu 28, allez faites de toutes les nations. Tous les jeudis au travail, Dieu nous a fait grâce de nous réunir pour faire des études bibliques. Je remercie vraiment le Seigneur que depuis septembre, nous continuons à le faire. Le nombre ne fait que croître. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et un frère qui vient avec nous a partagé en sortant de cette réunion que sa sœur avait été envoyée par son père à Londres pour apprendre l'anglais. Ce qui est une très bonne chose pour les étudiants, même pour les plus avancés. Quand j'étais à l'école, on disait j'irai jamais en Angleterre, mais enfin bon, ça nous a bien rattrapés parce que l'anglais est très utile aujourd'hui. Et donc cette jeune fille est allée à Londres, elle est revenue, elle parlait pas anglais. Et le papa n'était pas content, mais elle parlait en langue. Parce que là où elle est allée, son oncle est pasteur. Il priait beaucoup, elle est revenue en parlant en langue. Le papa était irrité. Il voyait pas la grâce que Dieu lui avait faite. C'est mieux, hein, de parler en langue. Mais parler aussi une langue étrangère est une grâce que Dieu fait. C'est dans Marc 16. Vous parlerez de langues nouvelles. Et dans les langues nouvelles, il y a les langues peut-être qui ne sont pas de là où tu viens, mais il y a aussi la langue céleste. Toutes ces choses sont des grâces, ce sont des dons que Dieu a manifestés. Et peut-être ce matin aussi, je veux dire, si jamais Dieu vous a mis à cœur ce ministère de partager dans votre entreprise, je vous invite à venir me voir à la fin du culte, parce qu'il y a une association qui s'appelle le groupe biblique d'entreprise qui aide, et on peut le faire pendant ces heures de repas. Et encore une fois, si Dieu vous l'a mis à cœur, n'hésitez pas à ce qu'on prie ensemble et à ce qu'on en parle. Parce que cet évangile, il faut qu'il soit diffusé. Il faut qu'il soit diffusé. Comme Pierre et Jean, ils ne pouvaient pas le garder pour eux. Ils ont dit aux Juifs, ce que nous avons vu, pouvons-nous le cacher? Non. Ils ont vu Jésus ressusciter. Ils ont vu Jésus mourir. Je rappelle. Ils ont vu le corps de Jésus mort. Mais ils l'ont vu 3 jours après. Pouvaient-ils ne pas revenir le dire? Ils n'auraient pas fait la volonté de Dieu. Mais nous glorifions le Seigneur parce que maintenant, nous voulons être comme cette Église. Nous voulons avoir les mêmes choses que cette Église. Dieu nous a fait grâce pour le bâtiment. C'est une grâce de Dieu. Je vous rappelle que la recherche de ce bâtiment remonte à près de 18 ans. À près de 18 ans, quand vous voyez ce bâtiment, dites-vous bien qu'il y a plusieurs années, des gens ont prié, n'ont cessé de prier. Et si on avait baissé les bras, ça n'allait pas arriver. Dieu t'appelle à persévérer. Mais nous voulons vivre les mêmes choses que ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous voulons que le Seigneur remplisse cette église de son esprit, qu'il dirige cette église, qu'il nous envoie là où nous devons aller, que nous parlions comme lui veut que nous puissions parler. Moïse bégayait. Il fallait Aaron. Il fallait qu'il soit 2 pour parler. Et nous sommes plus que 2 dans cette église. Je glorifie le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur.
Merci parce que tu es élevé. Merci, Seigneur, pour que j'ai vu ton